VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. En Guinée, les affrontements entre les forces de l'ordre et des jeunes manifestants ont repris ce matin sur l'axe Bambeto-Kosa, alors que les Guinéens devraient connaître les résultats du premier tour de la présidentielle en fin de semaine. Nathalie Barge.
Légalement, la commission électorale guinéenne dispose de 72 heures après réception du dernier procès-verbal du scrutin du 11 octobre avant d'annoncer les résultats. Le taux de participation au premier tour est d'environ 75% selon un communiqué de la CENI qui affirme que la journée du scrutin a été caractérisée par la sérénité, le calme et un engouement exceptionnel. La commission a essuyé des critiques des missions d'observation en raison de problèmes logistiques et d'organisation qui ont entraîné d'importants retards. Le chef de la mission d'observation de l'Union européenne, Frank Engel, a reproché à la CENI d'avoir changé les règles du scrutin dimanche, précisant que certaines modifications étaient en contradiction avec le code électoral. Quant aux 7 candidats en lice face au président sortant Alpha Condé, ils ont réclamé l'annulation du premier tour. Le ministre de la Justice, Cheikh Sako, a mis en garde mardi contre tout appel à la violence, notamment les manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques. Et il a rappelé que toute contestation des élections devait se faire devant la Cour constitutionnelle.
En Côte d'Ivoire, l'opposition menace de boycotter la présidentielle du 25 octobre, dont le président sortant Alassane Ouattara est le grand favori. Deux figures de l'opposition, ancien ministre des Affaires étrangères Amara Issi et Mamadou Coulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, ont déjà annoncé leur retrait. Les opposants estiment que les libertés individuelles ne sont pas garanties. Par ailleurs, ils accusent la commission électorale indépendante de ne pas être impartiale et les médias d'être au service du président. Au moins 4 personnes ont été tuées dans 3 attentats suicides commis quasi simultanément mardi soir à Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria. Les attentats n'ont pas été revendiqués mais ils portent la marque des insurgés islamistes de Boko Haram qui ont intensifié leurs attaques contre les cibles civiles au cours des derniers mois. Le président Barack Obama a annoncé ce mercredi le déploiement prochain de 300 militaires américains au Cameroun. Ils s'occuperont des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance dans la région de l'extrême nord, une zone en proie aux attaques islamistes de Boko Haram. Les autorités congolaises détenaient aujourd'hui un producteur technicien burundais de la radio publique africaine, RPA, fermée par les autorités de Bujumbura et détruite le lendemain du putsch manqué du 13 mai dernier. Egide Mouemero a été arrêté mardi après-midi avec 2 journalistes congolais ayant collaboré à une émission de radio sur son pays, diffusée à partir de l'est de la RDC. Les Nations Unies ont de nouveau assuré mercredi n'avoir commis aucune bavure lors d'une opération aérienne menée début octobre par des casques bleus dans l'est de la République démocratique du Congo, contestant ainsi le bilan de 5 civils tués donné par les autorités de Kinshasa. En République centrafricaine, les concertations élargies des plateformes, partis, associations et personnalités politiques indépendantes maintient son mot d'ordre de boycotter les concertations des forces vives de la nation ouvertes lundi par la présidence de la transition, Catherine Samba-Panza. Alors pourquoi ce refus? Félix Yepassi Zembro a joint à Bangui le président du Parti africain pour la transformation et l'intégration des États et porte-parole de la concertation, maire Crépin Mboligumba.
La présidente intérimaire avait annoncé l'ouverture d'une concertation sans exclusive, c'est-à-dire inclusive avec les forces vives de la nation. Malheureusement, elle a décidé de faire une consultation avec des gens triés sur le volet. Nous voulons une concertation inclusive avec tous les fils et filles de ce pays pour discuter de trois sujets principalement. Le premier sujet, c'est la sécurité. Comme vous le savez, la sécurité s'est dégradée. Je rappelle qu'il y a eu à ce jour 77 personnes tuées, des maisons incendiées et des pillages. Le deuxième point, c'est le processus électoral. Le président de l'Autorité nationale des élections a démissionné et ce processus électoral est en danger. Enfin, le troisième sujet, c'est le vide constitutionnel à partir du 31 décembre. Il faudrait bien que ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les forces vives de la nation, se retrouvent, discutent et décident. Voilà pourquoi nous avons décidé, nous, au niveau de la concertation élargie, de ne pas participer à cette mascarade.
Une nouvelle manifestation de milliers de Sud-Africains à Johannesburg contre la corruption. Les protestataires ont principalement dénoncé le président Jacob Zuma d'avoir détruit le pays. Les détails avec Eddy Sango.
Ils étaient autour des 5000 dans les rues de la capitale sud-africaine à répondre à l'appel du très puissant syndicat national de la métallurgie, NUMSA, indique l'AFP. La plupart des employés des mines, un secteur en pleine crise. Vêtus des rouges et jaunes, les couleurs de leurs organisations syndicales, ils ont dénoncé à coups de slogans la corruption et les pertes d'emplois qui s'accentuent dans le pays. 13 millions de personnes vont se coucher chaque soir sans rien manger et 50% des travailleurs vivent sous les seuils de pauvreté. Ces gens-là, au gouvernement, s'achètent des hélicoptères qui les ramènent chez eux en se posant sur les toits de leur maison. Nous en avons assez, a déclaré au cours de la manifestation Zwelin Zima Vavi, ancien syndicaliste proche du pouvoir, désormais engagé dans la campagne anti-corruption. Le président Zuma était particulièrement visé par la manifestation à cause du scandale de la rénovation de sa résidence de campagne privée. Sous couvert des travaux de sécurité, la facture des travaux s'était élevée à près de 20 millions d'euros.
Émigration vers l'Afrique du Sud, plus de 300 migrants éthiopiens qui ont déjà purgé leur peine ou payé une amende pour entrée illégale au Malawi croupissent dans des prisons surpeuplées, faute de moyens pour être rapatriés. Le gouvernement soudanais bloque la livraison de fournitures essentielles, dont des ratios aux soldats de la mission de paix conjointe ONU-Union africaine. Il s'agit de la MINUAD au Darfour. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui à des journalistes l'ambassadeur britannique à l'ONU, Matthew Rycroft. Et puis l'historien et défenseur des droits de l'homme marocain, Mati Moudjib, a été hospitalisé mercredi à Rabat après 8 jours de grève de la faim pour protester contre son interdiction de quitter le territoire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'aviation russe a bombardé 40 cibles terroristes en Syrie au cours des dernières 24 heures. Il s'agit, d'après le ministère russe de la Défense, d'une baisse importante du nombre de raids aériens par rapport aux jours précédents. Il faut dire qu'hier, les forces aériennes russes avaient annoncé 86 frappes, soit un niveau d'intensité jamais atteint depuis le début de leur intervention militaire en Syrie, le 30 septembre. En Turquie, le ministère de l'Intérieur a limogé aujourd'hui les responsables de la police d'Ankara, 4 jours après le double attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays, qui a suscité un nouveau vent de fronde contre le président Recep Tayyip Erdogan à la veille des législatives. Les précisions de Jacques Aristide.
Les têtes commencent donc à tomber après l'attentat meurtrier d'Ankara. Kadri Kartal, le patron de la police de la capitale, et deux de ses adjoints sont les premiers à être destitués. Des développements qui surviennent au lendemain de l'aveu du président turc qui a concédé hier soir l'éventualité de faute de ses services avant l'attaque. Recep Tayyip Erdogan a annoncé l'ouverture d'une enquête du Conseil d'inspection de l'État afin d'identifier les manquements à la sécurité avant l'attaque qui a fait samedi dernier au moins 97 morts et plus de 500 blessés. Le chef de l'État s'est recueilli ce matin sur le site de l'explosion où il a déposé une gerbe à la mémoire des victimes. L'opposition pro-kurde pointe du doigt ses responsabilités dans l'attentat. La Turquie a fait du groupe État islamique le suspect numéro 1, le président Erdogan, affirmant que cette attaque terroriste trouve ses origines en Syrie. D'après l'AFP, les deux kamikazes présumés seraient des ressortissants turcs, l'un le frère de l'auteur de l'attaque à suicide de Suruç et l'autre connu pour être allé combattre à 2 reprises en Syrie.
Flambée de violence au Proche-Orient, un homme a poignardé une femme près de la gare routière de Jérusalem. La septuagénaire souffre de graves blessures. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Guiriec et je cède la place à Claire Morin-Gibourg. Salle plus.
cœur de l'info sur VOA Afrique.